9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour, camarades de la radio. Oui, je sais, votre week-end ne pouvait pas mieux commencer, car écoutez, Maître Serral, c'est comme prendre un bon petit déjeuner. C'est comme faire au moins 2 heures de sport. Ça vous met en forme pour toute la journée, et ce, d'autant plus qu'immédiatement après, il y aura l'intervention de notre camarade Abdelali Mamoun. Et oui, le droit et la foi peuvent faire bon ménage, et ce cocktail vous est offert tous les samedis. Alors désormais, j'annoncerai dans mon excellente chronique le sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet souvent évoqué dans les réponses que j'ai été amené à vous apporter, l'importance de la lettre recommandée avec accusé de réception. Je vous précise que, bien évidemment, et comme d'habitude, les questions que vous serez amené à poser peuvent concerner tous les sujets de votre choix. Ne vous forcez pas à poser des questions sur les recommandés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, évoquons l'actualité de la semaine, et notamment, mon cher Philippe, un sujet qui vous concerne directement.
Oui, ainsi, s'il vous plaît.
Après avoir pointé du doigt les propriétaires de piscines, et vous êtes, mon cher Philippe, l'heureux propriétaire d'une piscine extérieure et intérieure au sein d'une propriété située à un endroit que je ne révélerai pas, entre Monaco et Monaco. Les militants d'Attaque et Extinction Rébellion ont décidé de chier dans les pompes des propriétaires de jets privés. Et vous êtes également l'heureux propriétaire d'un tout petit jet, en bloquant ce vendredi le terminal 1 de l'aéroport du Bourget destiné au départ de ces jets. L'objectif étant d'empêcher les départs en week-end et de dénoncer la responsabilité des riches dans la crise climatique. Je dois signaler qu'à cause de ces emmerdeurs, on n'a pas pu programmer notre petit week-end en présence de l'imam et de quelques jolies demoiselles à Monaco. Il y a vraiment des gens qui passent leur temps à gâcher le plaisir des autres. Si ça, c'est pas un geste égoïste de leur part, mais bordel, on n'a donc plus le droit d'être riche dans ce pays. Ce qui risque de se passer, c'est que les jets privés décolleront le plus souvent de Suisse, car le Suisse aime le riche. L'expression « l'argent n'a pas d'odeur » est d'ailleurs une expression suisse, et se demander si utiliser un jet privé est écolo ou pas est une question qui n'a aucun sens pour un Suisse. Mais revenons à des sujets qui concernent davantage le peuple, et notamment ce qui est devenu aujourd'hui l'affaire Quatennens. C'est a priori la fin d'un parcours politique pour celui qui a reconnu avoir giflé son épouse. Rappelons que l'épouse n'avait pas déposé plainte dans cette affaire. Elle a déposé une main courante en spécifiant qu'elle ne voulait pas que l'affaire s'ébruite. Eh bien, c'est loupé, hein, puisque le procureur de la République a décidé de se pencher sur le dossier. Alors certes, c'est une bonne chose, sauf que si l'auteur n'avait pas été Quatennens, le procureur aurait-il décidé de donner suite? C'est pas sûr du tout. Et oui, si vous n'êtes pas connu, ou si l'auteur des faits n'est pas connu, bref, si vous êtes monsieur ou madame tout le monde, je peux vous assurer que très souvent, quand une femme veut déposer plainte, d'abord, on l'invite plutôt à déposer une main courante, et même lorsqu'elle dépose plainte, malheureusement, le parquet ne fait pas toujours preuve de diligence, et l'auteur des faits n'est pas toujours inquiété. Faut croire que pour permettre l'accélération des choses, il faut être plus ou moins connu. Allez, que vous soyez célèbre ou pas, n'hésitez pas à nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui, contrairement à ce que je déclarais, privilégie le vélo à tout autre moyen de transport. Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Ah oui, le vélo et la marche.
Et la marche.
Ouais, voilà. D'abord, en un.
Ouais, donc la voiture, niette.
Niette.
Jamais.
Bah, faudrait que je sache conduire.
Ah ouais, c'est
d'accord,
chaud.
Donc pas de voiture, pas de chauffeur.
Et quand il pleut?
Alors ça, c'est vrai. Alors ça, ouais, c'est pas mon temps préféré, la pluie. Ouais. Hein. Bah, je prends le métro.
Ah ouais. Bah,
ça dépend comment il pleut. La plupart du temps, quand il pleut, je marche. Mais
d'accord. Non. Il pleut bien comme il faut.
Quoi. Ouais. Ben, métro.
Ouais, c'est chiant, ça, le métro aussi.
Oui, mais bon, voilà, médecin. Vous voulez qu'on en parle, vous?
Non.
Bon, comment ça va, médecin Rann, cette petite semaine? Comment ça s'est passé?
Une semaine tranquille.
Oui?
Ouais, tranquille.
Mais qu'est-ce que vous appelez une semaine tranquille? Parce que je crois que tout le monde veut savoir comment vous avez passé votre semaine.
Ah, carrément, mais vous pensez vraiment que ça peut intéresser les auditeurs de savoir si Maître Serral a passé une semaine tranquille ou
non,
pas?
Non, ça n'intéresse personne, en fait.
Non, mais c'est peu probable. Si, peut-être mon épouse, ça l'intéresse. Mes enfants, ça peut éventuellement les intéresser, encore que...
Encore s'ils ont touché leur semaine, non.
Ouais, c'est vrai qu'il y a...
C'est trop tard.
Ouais, c'est trop tard. Vous avez raison.
Si vous avez payé, c'est...
Ouais.
C'est
non, mais c'est vrai, hein. L'enfant est ingrat par définition.
Surtout plus il grandit.
Oui, mais c'est vrai.
Ouais.
Ouais, je vous assure que c'est exactement ça. Je crois que tous les parents connaissent ce truc-là, ouais. Par définition,
l'enfant... En fait, c'est la vocation à être un porte-monnaie.
Ouais, on finit par être que ça, ouais.
C'est le rôle de parent, à partir d'un certain âge.
On a une carte bleue, un porte-monnaie.
Ouais.
Bon, écoutez...
Bon, Maître Serral, on va parler de lettres recommandées. Je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut refuser une lettre recommandée?
Oui,
après tout. Alors, je vous parle pas de pas aller la chercher. Hein.
Oui, oui, oui.
Dire non, je n'en veux pas.
On a le droit de la refuser. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que souvent, les personnes, quand on se rend compte qu'on a une procédure qui est en cours et quand on découvre que la partie adverse avait déjà envoyé une lettre recommandée, la personne ne nie pas avoir reçu la lettre recommandée ou avoir été invitée à l'accepter. C'est-à-dire qu'on vous dit, non maître, mais je me doutais que c'était un tel ou un tel. Donc on sait que c'est en gros la partie adverse qui vous envoie une lettre recommandée et puis on se dit, je vais pas accepter cette lettre recommandée volontairement. Ou alors je vais pas aller la récupérer en se disant, alors c'est assez surprenant, en se disant que le litige entre guillemets ne commencera pas. Mais c'est une grave erreur, puisque d'abord très souvent effectivement quand vous recevez un recommandé, c'est jamais une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on vous annonce.
Moi j'en connais pas.
Voilà, hein,
de lettre recommandée de bonne nouvelle.
Extraordinaire dans le cadre d'un recommandé. Donc c'est vrai qu'on a toujours un petit doute. Il arrive parfois même que, on le voit, hein, quand justement on va aller récupérer parfois des recommandés, vous avez des personnes qui posent la question en disant qui est l'auteur du recommandé pour voir s'il les récupère ou pas. Alors parfois la personne qui est derrière le guichet vous répond ou vous répond pas. Donc c'est vrai, c'est pas forcément annonciateur d'une bonne nouvelle. Sauf que je pars du principe qu'il vaut mieux être informé d'une mauvaise nouvelle pour éventuellement trouver une parade que de recevoir un coup de gourdin sur la tête et vous savez même pas d'où il part. Donc la plus mauvaise des stratégies, ce serait de faire comme si de rien n'était.
Ce que vous venez de nous dire, c'est que qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, ça ne change absolument rien.
Ça change absolument rien.
Donc, autant l'accepter.
Voilà, ça change absolument rien dans l'éventuel litige, puisqu'on part du principe que si vous avez une lettre recommandée, en règle générale, c'est très souvent une mise en demeure. C'est-à-dire qu'on va vous prévenir que vous avez un délai pour essayer de régler ce problème, et puis on vous dit passez ce délai. On transmet le dossier à un avocat, on transmet le dossier au service contentieux et autres. Donc, ça vous permet déjà de voir un peu quel est le problème et puis éventuellement de trouver une parade. Mais ne pas récupérer sa lettre recommandée, c'est un raisonnement qui est débile, puisque dans les semaines qui vont suivre, au-delà du recommandé, vous recevrez probablement une assignation. Là, on est dans la deuxième partie de la procédure. Alors, vous avez toujours des kamikazes qui ne vont pas non plus ou qui refusent l'assignation. Alors, l'assignation, c'est l'huissier qui va chez vous, qui toque, si vous êtes là, il vous remet l'assignation. Alors, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Vous pouvez dire, écoutez, moi, j'en veux pas. Et puis, si vous n'êtes pas là, il vous laisse un petit mot dans votre boîte aux lettres, à charge pour vous d'aller chez l'huissier pour récupérer votre assignation. Mais on a parfois des personnes indécrottables qui, même le courrier de l'huissier, ils font comme si de rien n'était. Sauf que le tribunal, lui, est saisi. C'est-à-dire que vous ayez été informé ou pas, le tribunal va être saisi. Et le fait, quand la partie adverse va dire, mais attendez, moi j'ai d'abord envoyé un recommandé, je peux en justifier, ensuite il y a une assignation et monsieur ou madame X ne vient pas à l'audience, vous imaginez bien que d'abord, vous ne connaîtrez pas les détails de l'affaire pour laquelle vous êtes poursuivi, et puis par définition, vous ne pourrez pas éventuellement apporter la contradiction ou dire que c'est faux, c'est exagéré, enfin bref, essayez de vous défendre. Et ça, c'est jamais plaisant pour un magistrat. Donc le magistrat va vous mettre un coup de gourdin sur la tête et ensuite vous serez de toute manière condamné. Donc avant d'en arriver là, il vaut mieux accepter ou récupérer son petit recommandé, puisque ça permet aussi parfois de dégonfler un éventuel litige qui n'a peut-être pas lieu d'être. Parfois c'est une incompréhension, parfois c'est peut-être un oubli de votre part. Donc il faut accepter ce recommandé et puis si c'est une mauvaise nouvelle, eh ben vous faites comme tout le monde. Si c'est une situation où l'avocat n'est pas obligatoire ou n'est pas nécessaire, eh ben vous défendez tout seul et vous pouvez à votre tour contacter la partie adverse. Si l'avocat est obligatoire, vous allez voir un confrère et à partir de là le dossier pourra être géré. Mais je vous assure, la technique, parce qu'on le voit hein, parfois dans certaines affaires, quand vous arrivez devant le magistrat et que le confrère explique au juge qu'avant d'en arriver là, en gros, avant de vous déranger, madame ou monsieur le juge, on a envoyé des courriers. Alors, ce sont très souvent d'abord des courriers simples, mais qui n'ont pas de valeur particulière. Ensuite, on a envoyé un recommandé. Et voilà, on constate que monsieur ou madame X ne nous a toujours pas répondu. Vous avez le juge qui vous pose la question à vous, avocat, en disant, en gros, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on en est là. Ça aurait peut-être pu se gérer avant. C'est jamais bon pour la partie adverse. On se dit qu'au moment de la rédaction du jugement, ça va venir à l'esprit du magistrat. Donc, prenez-le, ce recommandé, même si on vous annonce une mauvaise nouvelle. Mais moi, je pars du principe qu'il vaut mieux être paré pour se défendre quand il y a une mauvaise nouvelle que de subir une mauvaise surprise et de recevoir un coup de gourdin sur la tête.
Donc, ne pas récupérer un recommandé ou ne pas l'accepter, ça n'enraye pas un processus.
Ça n'a aucune incidence.
Pas aucune incidence juridique.
C'est vraiment, alors surprenant, c'est vraiment le premier réflexe. C'est-à-dire que quand vous en discutez avec des clients en disant, mais attendez, j'ai le confrère, la consoeur qui me justifie, parce qu'on nous envoie la copie des pièces, évidemment, hein, c'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire, en disant, mais vous avez reçu un ou deux recommandés. Le client qui est quand même de bonne foi vous dit oui, mais je me doutais que c'était la société lambda, donc voilà, je me suis dit si je le retire pas ou si je l'accepte pas. Non, la bêtise, elle est justement là. Il arrive parfois, mais j'ai été.
Mais on pourrait ne pas le recevoir à la limite.
Alors,
en vrai,
il y a deux choses. C'est-à-dire que d'abord, il faut s'assurer quand même quand il y a ce fameux recommandé qu'on vous l'a envoyé à la bonne adresse. Donc ça, si pour une raison lambda, le courrier revient ou c'est écrit n'habite pas à l'adresse indiquée. Et que demain, il y a litige, vous vous retrouvez devant un juge, puisqu'encore une fois, à partir du moment où vous vous retrouvez devant un magistrat, le principe du contradictoire fait que chacun doit se communiquer les pièces. Ce n'est pas comme aux États-Unis où on sort la pièce magique. Ça n'existe pas en droit français. Si je sors un document, si je le présente à un magistrat, je l'ai déjà au préalable communiqué à la partie adverse. Sinon, un juge peut dire, maître, ce document, on ne l'accepte pas. Donc, si on découvre, au moment de la communication de pièces, qu'effectivement, il y a un recommandé qui est bien parti, mais c'est la mauvaise adresse, tout ce que je vous dis là ne tient pas la route.
D'accord. Ouais, moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'un recommandé qui ne soit pas arrivé. Parce qu'on doit vous le remettre en main propre, a priori.
Alors, on doit vous le remettre en main propre. On vous laisse un petit papier dans votre boîte aux lettres, à charge pour vous d'aller le récupérer. Mais, et c'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire que j'ai été confronté à ce type de litige, puisque on devait mettre en demeure une compagnie d'assurance, et vous savez qu'il y a beaucoup de litiges avant de se retrouver devant un tribunal, vous devez justement faire cette mise en demeure, la mise en demeure se fait par lettre recommandée avec l'accusé de réception. Donc on a mis en demeure la compagnie d'assurance. J'ai eu le justificatif disant qu'effectivement, la compagnie d'assurance a bien reçu le courrier, mais elle l'a refusé. Et lorsqu'on s'est retrouvé devant le tribunal, la compagnie d'assurance a indiqué qu'ils n'avaient rien reçu. C'est-à-dire, alors, selon moi, de mauvaise foi, mais en disant qu'ils n'avaient rien reçu, à charge pour moi de prouver que mon recommandé était bien parti. Mais à partir du moment où vous avez le petit papillon qui dit que c'est parti en temps et en heure, que c'est bien arrivé à la bonne adresse... En fait, c'est plus une responsabilité de la poste. C'est-à-dire, c'est une défaillance de la poste, c'est pas une défaillance de la partie adverse. Donc, il faut quand même, encore une fois, j'allais dire, ne pas faire l'économie de ça. Recommander, c'est le prix de base, c'est 5 euros et quelques. Alors oui, vous faites la queue, c'est un peu pénible, encore que maintenant, vous allez directement à la machine, hein, c'est fini le temps où voilà, vous remplissiez ça à la main. Mais on s'en rend pas forcément compte. C'est vraiment, encore une fois, le départ et le début d'un litige d'abord. En droit, on parle de recevabilité. Il y a certaines procédures où, si vous n'avez pas fait de mise en demeure, votre dossier juridiquement ne peut pas passer. Si je vous assigne directement, sans vous avoir mis en demeure, un magistrat peut considérer que mon assignation est caduque, puisque j'aurais dû, entre guillemets, vous prévenir d'abord avant de vous assigner. Donc, parfois, procéduralement, c'est obligatoire. Mais indépendamment du fait que ce soit obligatoire, le recommander est recommandé, ouais, si vous me permettez ce jeu de mots extrêmement,
non, c'est bien,
drôle.
C'est, vous, extrêmement drôle. Pour un week-end, ah, on je vous trouve très voilà. au taquet, donc, affûté voilà, de l'esprit.
Donc je le dis, le recommandé, ouais. on va d'accord. le répéter, parce qu'il y a peut-être des personnes
qui n'ont pas compris.
Qui n'ont ouais. pas compris cette blague extraordinaire. Donc le recommandé est fortement recommandé pour toutes les procédures. Et encore une fois, le juge vous posera la question. Donc ne faites pas l'économie de ça. D'abord, un, vous risquez de fâcher un magistrat, et au pire, vous risquez de perdre un procès juste à cause de ça.
Moi, je pense à tous ceux qui refusent les recommander.
Ça n'a aucun sens.
Ou qui vont pas les chercher en pensant que ça les
mais c'est
protège.
Terrible, mais bien sûr, ça, on l'entend
énormément de gens.
Hein. On l'a entendu mille fois, et ils ont l'impression que... Et d'ailleurs, souvent, on nous dit, mais j'ai pas été chercher le recommandé. C'est presque une excuse. Non, surtout pas, ne faites pas cette bêtise-là.
Maître Serran, alors, vous pouvez poser vos questions à Maître Serran sur tous les sujets juridiques au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
C'est tout droit, avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parlait de la technologie aujourd'hui qui encadre nos maisons, Maître Serran,
ah oui, hein,
les micros, les caméras, tout ça.
On est plus tranquille en fait.
Non.
D'ailleurs, on vous précise que justement, les caméras doivent pas être dirigées du côté espace public, donc du côté trottoir. Mais quand, quand vous marchez, vous baladez, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de caméras qui donnent directement sur le trottoir. Donc, c'est assez surprenant et même assez inquiétant.
Est-ce qu'il faut des moyens d'information, Maître Serran ?
Ah, c'est une obligation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais pas, mais prenons le cas d'une société qui voudrait mettre des caméras. Il faut au préalable informer les salariés pour leur dire que, entre guillemets, cette fameuse phrase, souriez, vous êtes filmé, mais il faut évidemment prévenir les salariés. Donc vous pouvez pas.
C'est obligatoire.
Ah, c'est obligatoire.
Même si c'est un dispositif de sécurité, par exemple.
Mais quand bien même.
Contre le vol, je veux dire.
Mais on va dire très souvent, c'est dans ce sens-là. Voilà, il n'y a pas forcément un mauvais esprit, mais quelle que soit la philosophie de cette société, il faut au préalable prévenir vos salariés en disant que à tel ou tel endroit, il y a effectivement des caméras. Alors évidemment, avec des interdictions, on met pas de caméras dans les toilettes par définition, ça semble évident, mais voilà, il faut le signaler.
Ni de micro.
Ah non, mais ce qui vaut pour les caméras vaut pour les micros. Et puis d'abord, ce serait considéré comme une atteinte à la vie privée. Et il faut aussi comprendre que, imaginons deux secondes que l'employeur décide d'utiliser ce qu'il a filmé ou ce qu'il a vu contre le salarié à partir du moment où le protocole n'a pas été respecté. Ce sont des éléments qui seraient irrecevables et le salarié pourrait même attaquer la société. Encore une fois, c'est considéré comme une atteinte à la vie privée.
Donc il y a des règles. Ça n'a pas de sens puisqu'on peut prendre le contrôle d'un ordinateur à distance. Donc effectivement, tout peut se faire.
Oui, mais après, ensuite, on est dans le domaine de l'illégalité. Là, on parle des choses claires. C'est-à-dire que si je veux faire des choses très claires, j'ai le droit de poser des caméras, j'ai le droit de poser des micros, mais il y a une information préalable. Et à partir du moment où mon salarié le sait, après, j'allais presque dire...
C'est des panneaux d'affichage, c'est quoi ?
Oh, ça peut être un panneau d'affichage, mais ça peut être aussi un écrit. D'ailleurs, il vaut mieux un écrit qu'un simple entretien.
Une note de service.
Voilà, donc ça, il faut le faire. Mais à partir du moment où c'est fait, il n'y a rien qui m'interdit d'utiliser ces éléments-là.
Bah avec le télétravail et son développement, aujourd'hui, c'est des questions qui se posent de plus en plus.
Ah, bien sûr.
Alors, nous avons Rachida qui est avec nous, qui vous appelle Maître Serran au 01 53 48 3000. Bienvenue, Rachida.
Oui, bonjour.
Bonjour, Rachida. Attends, on va.
Bonjour.
Maître Serran, voilà, branche ses oreillettes. On vous écoute, Rachida.
Oui, bon, je voudrais poser une question. En fait, j'ai reçu une amende de stationnement gênant sur une place handicapée, alors que j'ai une carte handicapée. Donc, j'étais garée à côté d'une voiture. Et en fait, j'étais un petit peu trop serrée de la voiture. Du coup, ils sont passés, ils m'ont mis une amende de 35 euros. Et du coup, j'ai contesté. J'ai dit que j'étais sur une place handicapée, mais que la personne qui était à côté, je ne pensais pas que je la gênais. En plus, je n'ai même pas vu la carte de la personne, parce que je ne sais même pas si elle avait sa carte ou pas. Donc, j'ai contesté les 35 euros. Suite à ça, on m'a envoyé encore une deuxième amende. 135 majoré à 161 parce que j'avais contesté. Et quand j'ai recontesté cette amende-là, je dis, bah, pourquoi vous me l'avez augmentée, vu qu'on a le droit de contester, c'est stipulé sur le premier avis, qu'on a le droit de contester sans payer. Bah, ils m'ont dit, bah, si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous allez passer devant le tribunal. Donc là, j'ai une audience le 20 octobre, parce que j'ai contesté...
Juste pour comprendre, c'est-à-dire que vous étiez, vous, sur une place handicapée à ce moment-là ou pas?
Oui, j'ai ma carte handicapée.
D'accord, mais vous avez votre carte.
Alors, oui, c'est... mais ouais. J'étais collée et j'étais trop serrée pour eux par rapport au véhicule qui était à côté. Donc je gênais le dégagement du véhicule d'à côté.
D'accord, mais c'est ce qui vous est, entre guillemets, reproché sur le PV? C'est bien ça qui est spécifié ou c'est simplement le fait d'être sur une place handicapée?
Non, c'est le fait de gêner le véhicule à côté. Stationnement gênant le dégagement du véhicule.
D'accord. On a parfois l'impression que les personnes sont payées à emmerder les autres.
De véhicules gênants, l'accès à un autre véhicule ou son dégagement.
Alors, il faut savoir que, parce que très souvent, on a des personnes qui nous disent, mais écoutez, même si je vais devant le tribunal, ils pourront pas, on va dire, prouver que, puisque on vous a pas pris en photo, ça n'a pas été filmé, sauf que les procès-verbaux font foi, justement, jusqu'à preuve du contraire. Bah, ça veut dire que un policier, on considère que de facto, il dit la vérité. Donc la charge de la preuve pour vous, madame, ça va être très difficile là, devant ce tribunal. C'est-à-dire que essayer de prouver que cette amende ne correspond pas forcément à une infraction qui a été réalisée, on est dans ce qu'on appelle la preuve impossible. Donc c'est vrai que il n'y a rien qui vous interdirait, et puis vous l'avez dit de manière très pertinente, d'expliquer au tribunal que vous avez contesté, en gros, pour apporter des explications. C'est pas un refus de payer l'amende, mais simplement pour demander, enfin d'abord pour donner vos arguments et attendre un retour de l'administration. Et très souvent, curieusement, même si c'est prévu dans ces formulaires qu'on reçoit, on vous dit que vous pouvez contester, et quand vous contestez, vous recevez une amende majorée. Donc c'est assez surprenant. Voilà, donc c'est, encore une fois...
C'est-à-dire que la contestation n'empêcherait pas la majoration de l'amende.
En principe,
en
si.
En fait, il faudrait payer et contester après,
alors,
c'est ça ?
La règle, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, ou parfois, on vous demande, comme on dit, de consigner la somme. C'est-à-dire que vous allez payer, et puis si je vous donne satisfaction, le montant sera remboursé. Donc c'est vrai, c'est un système qui est un peu à l'envers. L'administration...
Le premier avis... Je contestais avoir commis infraction, n'effectuait pas de paiement.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme dirait, en fonction des amendes sur tel ou tel formulaire, vous avez cette mention, là, le fait d'être convoqué devant le tribunal, c'est ça qui va se jouer. C'est-à-dire que le magistrat va tenter d'établir si vous êtes de bonne ou de mauvaise foi. C'est-à-dire que si vous présentez ce document en disant « mais j'ai simplement respecté à la lettre ce qui était indiqué dans le courrier que j'ai reçu », le juge prendra ça en considération et pourra considérer que l'administration a joué les pénibles simplement pour jouer les pénibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait l'ombre d'un effort, ils n'ont même pas examiné votre réclamation. Donc le fait d'aller devant le tribunal, ça a parfois du bon. Au moins, vous avez un interlocuteur. Un interlocuteur qui est indépendant de l'administration.
Ça dure depuis... L'infraction a été faite au mois d'août 2020. Et là, je viens de recevoir...
Je vous crois volontiers. C'est particulièrement long. Parfois, d'ailleurs, on oublie même qu'on a pu commettre une infraction à telle ou telle époque, sauf que l'État a la mémoire longue. Donc, d'ailleurs, vous verrez, il y aura beaucoup de dossiers qui vont ressembler à votre affaire ce jour-là. C'est assez expéditif, hein, ça va assez vite. Très souvent, alors il ne s'agit pas de jeter la pierre sur les magistrats, mais très souvent, les magistrats ne font pas forcément l'effort d'examiner ou d'écouter les déclarations de personnes qui sont parfois de bonne foi, et puis très souvent elles donnent peut-être même un peu trop facilement raison à la partie adverse, à l'administration. Donc ne soyez pas déçus.
Ils m'ont envoyé le premier courrier en recommandé et la citation par huissier carrément.
Oui, mais ça procéduralement, voilà, c'est non, mais ça c'est pas parce que c'est vous, c'est la procédure qui est comme ça, hein, ça c'est normal. Maintenant, ce sont pas, vous savez, les dossiers de cette nature, on obtient gain de cause quand il y a des erreurs de procédure. Voilà, quand il y a un timing qui n'est pas respecté, quand il y a des mentions qui n'apparaissent pas, quand il y a des erreurs de procédure, oui, le magistrat peut annuler la procédure. Maintenant, quand il s'agit du fond, c'est-à-dire de l'histoire elle-même, les juges ont plutôt tendance à croire ce que dit le policier, l'administration.
Oui, oui.
Voilà, Rachida.
Ah bah oui, en tout cas voilà, il faut vous présenter et puis tenter d'établir que vous êtes de bonne foi dans cette histoire.
Non non, mais moi j'ai la passion, c'est juste que je ne pensais pas, j'ai mis le véhicule à côté. Que moi-même j'ai une salle, donc j'ai pu sortir de mon véhicule avec ma salle et j'ai pas compris pourquoi on m'a donné cet amende-là. Moi j'étais trop près de la voiture, du coup ça me permettait pas de dégagement. Donc si moi j'ai pu sortir de mon véhicule, c'est vrai que c'était un petit peu serré, mais je pensais pas que je gênais à ce point-là.
Bah écoutez, c'est ça qu'il faudra expliquer au magistrat ce jour-là.
C'est la première fois, et ça gonfle après la contravention, alors qu'il stipule bien qu'on a le droit de contester, qu'après il y a des suites après qu'on doit payer plus.
Je veux pas vous apporter qu'une réponse négative, c'est-à-dire que vous pouvez aussi tomber sur un magistrat qui peut comprendre la situation et considérer que l'amende n'est pas justifiée. Donc ça existe aussi, hein. Donc vous pouvez ressortir contente de cette audience, évidemment. Voilà, Rachida.
D'accord, bonne journée.
Allez, bon courage à vous. Bonne journée, Rachida.
Merci, Rachida. Alors, est-ce qu'on a le temps d'accueillir Ouria, Giovanni? Ouria, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, Ouria.
Donc, j'habite à Rouen, bonjour, maître.
Vous avez bien raison.
Comment ?
Vous avez bien raison.
Oui. Donc, j'ai des problèmes, justement, de carte de résidence, moi.
Oui.
Donc, je suis arrivée en France. Je suis retraitée de France, hein.
D'accord.
J'ai eu mes enfants. Puis après, bon, j'ai eu une carte de résidence en France. J'ai cherché à changer de statut parce qu'à l'époque, mon mari était vivant, paix à son âme. Donc j'ai essayé de changer de statut, j'ai été plusieurs fois en Algérie au consulat français, ils n'ont pas voulu m'accueillir, et puis j'ai été au truc où ils changent aussi des cartes de résidence, où ils ont eu les cartes à acheter. Ils m'ont dit vous revenez quand la carte de résidence est périmée.
D'accord.
Donc là depuis que je suis arrivée en 2016, donc ça fait 6 ans que j'habite en France. Tous mes enfants sont installés ici. J'ai personne en Algérie. Mon mari, moi, c'est à son âme. Donc, j'aurais voulu de refaire une carte de résidence en France.
Alors, ça peut sembler curieux, mais même si les arguments que vous invoquez, et notamment le fait que tous les enfants, toute la famille est sur le territoire français, que vous êtes ou que vous seriez isolé sur le territoire français, on se dit que spontanément, l'administration peut-être éviter un litige et donner satisfaction, puisque vous réunissez toutes les conditions.
Ben parce que mes enfants, ils sont en France, voilà. Ils sont nés ici. Donc,
L'administration ne raisonne pas forcément comme cela. Donc, vous disiez, c'est très compliqué d'obtenir un rendez-vous. On en avait déjà parlé, on fera d'autres émissions, puisqu'effectivement, c'est quasiment impossible d'avoir un rendez-vous via Internet. C'est toujours très, très compliqué. Mais on en revient au sujet qui a été traité ce matin. Vous savez, l'administration peut toujours se saisir par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est-à-dire que dans le courrier, alors je termine, mais dans le courrier que vous devez envoyer à l'administration, vous allez leur expliquer votre volonté d'obtenir un changement au niveau de votre carte, alors en mettant les arguments en avant, notamment le fait d'être isolé au pays et que tous les enfants demeurent sur le territoire français. À partir de là, donc il y a un délai. Et le délai est de 4 mois. Ça signifie que si l'administration vous a pas répondu, madame, dans ce timing de 4 mois, on considère que c'est un refus implicite, puisque, curieusement, mais c'est comme ça, les autorités préfectorales ne sont pas obligées de vous répondre. voyez, de, alors, soit on vous envoie un courrier pour vous dire oui, on peut vous dire non et vous recevez un courrier, mais quand on ne répond pas à partir d'un certain délai, c'est ce qu'on appelle un refus implicite. L'intérêt de bien calculer ce timing, c'est quoi ? C'est qu'à partir de ce refus implicite, vous pourrez saisir le tribunal administratif. Et contrairement à la préfecture, le tribunal administratif, lui, fixe une date d'audience. Et il est parfois plus intéressant, pour ne pas dire très souvent plus intéressant, d'avoir son dossier devant le tribunal, puisque vous avez quand même un magistrat qui va vous écouter, alors qu'il peut également tenter en tout cas de comprendre les explications ou l'absence d'explications des autorités préfectorales, mais au moins vous pourrez développer vos arguments. Et alors souvent on me dit oui, mais le tribunal il donnera forcément raison à la préfecture. C'est absolument faux. C'est-à-dire que, encore une fois, les magistrats sont indépendants, donc ça vaut parfois le coup, chère madame, d'aller directement devant le tribunal après avoir saisi les autorités préfectorales.
Voilà, Ouria, ce qu'on pouvait vous dire. Merci pour votre appel. Ça fait mal, hein. L'imam vient d'arriver.
Alors là, on était presque au niveau sieste. L'imam vient d'arriver, il allume toutes les lumières. On a les yeux qui brûlent.
Non, mais on voit que c'est pas lui qui paye. Ouais, non, mais c'est pas lui qui paye l'électricité. C'est pas Versailles ici.
Ah, voilà.
Hein? Oui. Ouais, c'est l'heure de la prière de l'Fajr. Allah.
Ah, bah voilà.
Non, Imam Abdelali, vous commencez, vous, à 10h. 10h, hein. Commence pas à gratter du temps. 01 53 48 3000 pour poser vos questions à Maître Serran. 01 53 48 3000.
C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, tout à l'heure à 10h, vous retrouverez l'imam Abdelali Mamoun qui vient d'arriver. Je vous rappelle vos petites annonces week-end en direct 11h midi sur Beurre FM. Avec l'instant love, hein, aux alentours de 11h30, 11h35. Mais ça, c'est pour plus tard, parce que l'instant love, c'est pas avec vous, Maître Serran.
L'instant love.
C'est pas avec l'imam non plus.
Ah, bah voilà, c'est ça, quoi. Faut préciser quand même.
Qu'est-ce que Maître Serran?
Ça va être dur. Pour moi, ça va être dur.
Bon, allez, je préfère qu'on accueille Othman qui vous attend au 01 53 48 3000. Othman, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Othman.
Bonjour Othman.
On vous remercie pour cette émission.
Écoutez, c'est pour vous, on est à votre service, comme on a l'habitude de le dire.
Merci. Moi, j'ai acheté une voiture sur le Bon Coin, juste avant le Covid. C'est une voiture, vraiment, elle était très bien. Mais après, c'était un auto-entrepreneur. On s'est vu sur un parking d'un carrefour un week-end, parce que quand je l'ai sollicité le travail, quand il m'a sollicité, moi je travaille. Et après le Covid, je n'ai pas pu partir avec ma voiture à l'étranger. Et j'ai essayé de la vendre sur le Bon Coin. Il y avait un monsieur qui venait l'acheter. Et là, il m'a dit qu'en fait, c'est une voiture de 2 places qui était modifiée en 5 places. Mais sur la carte grise, à la fin, elle était modifiée. Et moi, personnellement, je ne connais pas du tout. J'ai vu que les sièges devant, les sièges derrière, c'est la même couleur, c'est la même forme. Il y avait des ceintures sécurité, il y avait tout derrière. Et quand j'ai appelé le monsieur, il ne voulait rien entendre. Et pourtant, j'ai bien mentionné sur l'annonce sur le Bon Coin, il y a une voiture de 5 places. Et moi, je ne connais pas du tout. C'est le monsieur qui l'a acheté, qui m'a montré sur la carte grise. On peut voir si est-ce que c'est une 2 places ou bien de 5 places.
Bah, voilà. La difficulté, c'est qu'à partir du moment, monsieur, où vous achetez un véhicule et qu'a priori la carte grise ne correspond pas aux spécificités que vous cherchez, il n'y a rien qui vous interdirait d'engager une procédure pour demander l'annulation de la vente. Ouais, enfin, sauf s'il y a un accord avec l'intéressé, mais vous venez de me dire qu'il ne veut rien entendre et qu'à partir du moment où il a vendu le véhicule, c'est terminé. Ce qui m'inquiète un peu quand même, c'est que donc tout ça s'est passé il y a à peu près quoi, 2 ans?
Ouais, 2 ans. Mais j'ai déposé plainte directement. En fait, si vous voulez, quand je l'ai acheté juste avant Covid, après, par eux, moi, je constate que je ne peux pas aller avec un avec moi. Tout est fermé. Je voulais la vendre parce que ça ne sert à rien, je l'ai gardé. Et c'est là que je me suis rendu compte, le monsieur qui venait l'acheter pour me dire, en fait, tu
vois. D'accord. Donc, vous avez été au commissariat quand même?
J'étais au commissariat, gendarmerie, j'avais été au commissariat gendarmerie. J'ai déposé plainte. Et apparemment, l'entrepreneur là en question, il n'y a pas du tout d'adresse, c'est que ça, et je regarde après les faits, que c'est un monsieur qui est connu par le service de gendarmerie au commissariat pour plusieurs arnaques.
D'accord. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a l'aspect pénal, mais ça, vous l'avez déjà fait, si vous me dites qu'une plainte a été déposée au commissariat. Et puis, il y a l'aspect civil. Mais ce que vous me dites m'inquiète un peu, puisque l'aspect civil, c'est quoi ? C'est demander à un huissier de justice donc d'aller à la dernière adresse connue de ce monsieur, même s'il n'est pas sur place, on va dire, peu importe, et tant pis pour lui, vous irez devant le tribunal, un tribunal pourrait annuler la vente. En gros, ça veut dire que l'intéressé récupère son véhicule et puis vous restitue l'argent. Mais si vous me dites que ce type est introuvable, malheureusement, parfois, les clients ont un beau jugement, mais qui n'est pas exécutoire. C'est-à-dire que pour que je puisse forcer la main à ce type-là, encore faut-il le localiser. Donc, à minima, une adresse. Encore faut-il avoir les coordonnées d'une banque. Et encore une banque où l'intéressé aurait mis de l'argent pour pouvoir éventuellement procéder à une saisie. Mais en dehors de tout ça, si vous n'avez pas ces informations, le risque, monsieur, c'est que, certes, vous aurez une belle décision, mais une décision qui ne sera pas applicable. Et ça risque de poser difficulté. Et si, en plus, sur un plan pénal, la gendarmerie, la police n'arrivent pas à mettre la main sur ce type-là, vous allez vous retrouver avec un véhicule que vous pourrez, à la limite, même pas revendre.
Non, je l'ai vendu, mais j'ai baissé le prix. Je l'ai vendu.
Ouais, si mais faut faire attention à ces histoires de carte grise. Vous savez, la carte grise doit être conforme aux caractéristiques du véhicule. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait dire, bon, ben voilà, je prends moins cher et tant pis, je cours ce risque-là. Mais si vous me dites que entre guillemets, les modifications ne correspondent pas à la carte grise, ça peut poser une difficulté. D'abord, une difficulté, même si demain, il y a un accrochage, il y a un accident, la compagnie d'assurance va évidemment s'accrocher à ça pour dire au type, ben, on ne va pas vous indemniser. Et ce type-là à qui vous avez vendu le véhicule pourrait lui aussi se retourner contre vous.
Non, mais moi, je lui mentionne, monsieur.
Sauf que celui à qui il a vendu le véhicule sait que c'est un de place.
Oui, mais enfin, pensez spontanément que si demain il y a litige, je vais dire bah oui, je savais. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ça. Sauf si c'est spécifié par écrit, a priori, c'est pas le cas. Donc, il faut faire attention à ça. C'est ce qu'on appelle tout simplement la mauvaise foi. Il va tirer la couverture vers lui, c'est ce que je peux entendre et comprendre. Donc, c'est toujours délicat hein, quand la carte grise n'est pas conforme aux caractéristiques d'un véhicule.
Tout à fait. Non, moi, personnellement, quand je l'ai vendu, bah, j'ai perdu 2000 euros et j'ai mentionné sur la carte grise qu'une deux places. J'ai bien signé.
Voilà,
et
ça,
le
voilà.
Le va faire avec les 2000 euros.
Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est spécifié, le type, pas dire, je savais pas. Si c'est spécifié, comme vous dites, en gros, c'est 2000 euros, ça va lui permettre de faire les démarches pour. Là, vous êtes protégé, il n'y a pas de difficulté.
Tout à fait. Oui, après, personnellement, quand je sollicite parce que j'ai déposé le plainte dans le 91, le monsieur m'a vendu la voiture dans le 94, l'adresse qu'il a donnée, c'est 93, et quand j'appelle la gendarmerie, toujours en attente, il n'y a rien.
Non, mais c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'en plus d'un département à un autre, c'est-à-dire que la gendarmerie va transmettre le dossier au commissariat ou à la gendarmerie du coin, et ainsi de suite. Mais malheureusement, il y a des tonnes d'affaires de cette nature où les services de police, les services de gendarmerie considèrent que ce n'est pas forcément la priorité absolue. Donc, ce type de plainte risque de tomber dans les oubliettes.
D'accord.
Ouais, c'est ce que je disais, quand bien même il serait condamné, encore faut-il pouvoir le localiser, ce type.
D'accord.
Voilà, Othman.
Bon, je vous remercie beaucoup.
Ben, c'est nous qui vous remercions de nous avoir appelé. Jojo. On a combien de temps là? Parce que je ne vois pas sur le.
3 minutes.
On a 3 minutes, ah oui, parce que ce n'est pas spécifié sur l'écran de contrôle. Maître Serran, vous avez 3 minutes pour accueillir Nadia. Nadia, bienvenue.
Allô?
Oui, Nadia, bonjour.
Oui, bonjour à tous. Je vais me dépêcher. Donc voilà, j'habite, j'ai un logement en copropriété. Et dernièrement, on a une demande officieuse d'une personne qui nous demandait, pendant les fêtes hébraïques, de laisser allumer 24 heures sur 24, pour toute la durée de leur fête, la lumière des parties communes. Voilà. Alors moi, j'ai dit clairement que j'étais contre, parce qu'une demande comme celle-ci devait être effectuée en AG extraordinaire, que tous les, toutes, que tous les copropriétaires donnent leur accord ou pas, puisque c'est quand même une augmentation de nos charges qui serait quand même peut-être très conséquente. Voilà. Donc, notre gestionnaire ne nous répond pas, évidemment. Et nous sommes en plein briefing. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
À partir du moment où ça n'a pas été soumis d'abord à l'Assemblée Générale, alors soit annuelle, soit extraordinaire, éventuellement, vous faites ce que vous voulez, mais personne n'est tenu d'aller dans le sens de cette personne. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le volontariat. L'ambiance fait que vous acceptez la chose, eh ben, dont acte, il n'y a pas de difficulté. Si vous considérez, quelle que soit la raison, que cela n'est, à partir du moment où c'est pas voté, eh ben c'est pas applicable et on l'accepte pas, eh ben vous faites en sorte que la lumière ne reste pas de manière constante. Mais là il y a pas de litige à ce stade-là. Il faut que ce soit de manière officielle. Et si c'est une sorte d'arrangement à l'amiable, par définition, c'est la bonne volonté des uns et des autres.
Bien, de toute façon, vous pouvez poursuivre cette conversation avec Maître Serran, Nadia, au numéro. Donc, Maître Serran communique à tout le monde.
Joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Voilà, vous pourrez appeler Maître Serran, un peu après l'émission quand même.
Oui, même on va dire à partir de 12h.
Hein, puisque vous consultez le samedi, Maître Serran.
Oui, absolument.
Il faut dire à tous ceux qui nous écoutent que s'ils veulent un rendez-vous avec Maître Serran, ils peuvent le voir le samedi matin.
Je vais y aller. Là,
et le dimanche matin également.
Aussi, ouais, mais tout dépend de la nature du rendez-vous.
C'est l'imam Abdelali Mamoun qui sera là dans un instant pour l'islam au présent à 11h, vos petites annonces. Et puis à midi, vous retrouverez Emmanuel Mariani et toute l'équipe de Dessus de Table.
C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serral.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.